Bonsoir, comment allez-vous? Les feuilles des arbres ont un fonctionnement automatique et rassurant. Elles arrivent au printemps, passent l'été, puis jaunissent et tombent en automne. Une nouvelle fournée revient au printemps suivant et ainsi de suite. Il ne viendrait à l'idée de personne de couper les vieilles feuilles au début de l'automne ou de tirer sur les nouvelles à la fin de l'hiver pour accélérer le mouvement. Pourtant, c'est ce que l'on fait chez les humains quand on impose aux vieux, qui sont devant un ordinateur comme une poule devant un compas, le tout Internet. Payer leurs impôts, faire un cadeau, prendre un billet de train, affranchir une lettre, Internet. S'ils n'y arrivent pas, alors, petit à petit, toutes les actions de la vie leur deviennent interdites. Puisque, comme les feuilles du printemps, la génération Internet est déjà en place, il n'y a aucun danger qu'on passe à côté. Pourquoi ne laisse-t-on pas la génération précédente passer avec sa configuration à son rythme? Quand on les violente, on les fragilise. Plus on est fragile dans la vie, et plus cette vie devient compliquée pour tout le monde. Quand ils demandent de l'aide, on leur dit que c'est pourtant facile, que d'autres y arrivent. En un clic est la formule de leur incompétence. Elle les laisse perdus, honteux. Ils se sentent alors idiots, inutiles. Quand avec le téléphone, ils cherchent désespérément de vrais interlocuteurs, ils tombent sur une machine. Pour mourir d'angoisse, tapez 1. Pour mourir de tristesse, tapez 2. Pour mourir de solitude, tapez 3. Pour réécouter ce message, tapez dièse. Cet appel vous sera facturé le prix d'une communication locale.
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir jusqu'à quel âge peut-on vivre. Merci.
Margot, 7 ans, jusqu'à quel âge peut-on vivre? C'est vraiment l'âge de raison, dis donc, 7 ans. Jean-François Toussaint, vous êtes professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes.
Bien Margot, voilà une question passionnante à tous les points de vue. D'abord parce qu'elle nous concerne tous. Soit à travers nos parents et nos grands-parents, qu'on espère garder le plus longtemps possible. Et puis pour nous, qui cherchons aussi inlassablement à prolonger toujours un petit peu plus notre bail. Alors la réponse à cette question est très souvent dépendante de nos croyances. Pour certains, la vie éternelle continue ailleurs, après la mort de notre enveloppe terrestre, après que notre corps a cessé de fonctionner, ce qui n'est pas complètement faux, puisqu'une grande partie des éléments et des atomes qui nous composent sera recyclée et réutilisée par d'autres organismes. Pour d'autres, au contraire, c'est bien le corps et toutes ses fonctions complexes qui, lorsqu'il cesse de fonctionner, définit la borne ultime. Alors pour t'expliquer cela, je m'en tiendrai à la seule constatation possible, celle de ce que nous mesurons avec nos outils d'observation, c'est-à-dire la durée de vie des organismes humains, en distinguant la durée maximale connue et puis la durée moyenne pour un groupe de personnes ou pour une population. Et puis aussi les incertitudes, par exemple sur la date de naissance des personnes très âgées. On n'a pas toujours eu des systèmes d'archivage parfaitement fiables. Mais cette incertitude diminue avec le temps. Donc on peut dire qu'on s'approche de plus en plus de la réalité. Et ce qu'on constate est clair. La durée de vie maximale n'augmente plus.
Ah bon? On vivra pas plus vieux que ce qu'on vit maintenant?
Probablement pas plus que Jeanne Calment, et en tout cas certainement pas pour la moyenne de la population.
D'accord.
La très probable détentrice du maximum authentifié est effectivement Jeanne Calment, qui est décédée en 1997 à 122 ans, 5 mois et 2 semaines. Mais depuis, ce maximum, pour les doyens de l'humanité, se situe 5 ans en dessous, entre 115 et 118 ans. Et de la même façon, la moyenne, qu'on appelle en général l'espérance de vie, n'augmente presque plus dans les pays qui ont atteint les plus hauts niveaux de développement, comme le Japon ou la France. Alors, la conclusion qu'on peut en tirer devient de plus en plus évidente, la durée de vie maximale humaine, comme la taille ou les records du monde, par exemple, ne progresse plus depuis une génération, c'est-à-dire depuis à peu près 20 ans. Et la moyenne arrive doucement à son apogée, ce sera moins de 90 ans, et seulement dans les pays développés. Alors s'agit-il du maximum absolu? C'est pas sûr, mais ça reste très probable. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que nous avons, comme toute espèce vivante, des limites propres. Et l'homme ne pourra pas vivre aussi longtemps que le séquoia, 5000 ans, ni en avoir la taille, près de 120 mètres. Et ces limites, elles sont communes à l'intérieur d'une classe. Si l'on prend la classe des mammifères, par exemple, on sait que la durée de vie est proportionnelle et même inversement proportionnelle, par exemple, à la fréquence cardiaque. La souris qui vit 2 ans, son cœur bat à 600 battements par minute. La baleine, qui vit 80 ans, son cœur bat à 15 battements par minute.
Et l'homme, Jean-François Toussaint,
on est à 60 par minute au repos, ce qui veut dire que notre espérance de vie moyenne devrait être autour de 30 ans. Eh bien, si l'on regarde ce qui s'est passé depuis 300 000 ans, nouvelle découverte de Jean-Jacques Hublin, qui montre que l'homme et Homo sapiens, depuis cette période, s'est succédé à raison de 100 milliards d'individus, depuis cette époque, eh bien la moyenne est bien autour de 30 ans. Ce n'est que depuis deux siècles, depuis 10 générations, que l'espérance de vie a augmenté pendant que nous repoussions les contraintes environnementales.
Intéressant. Le professeur Jean-François Toussaint est venu répondre à cette question des petits bateaux en 2017. Voilà pourquoi il ne parle pas de la Covid, qui n'était pas encore arrivée à cette époque-là, époque bénie. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous entendrez un nouvel intervenant au petit bateau, le jeune philosophe Thibaut Giraud, qui répondra à la question « Pourquoi les époques du passé n'existent plus ?» Evelyne Heyer répondra à la question « Pourquoi l'homme est un peu pareil que le singe ?» et Patrick Dalmas « Depuis combien de temps les pompiers existent ?» Vous le savez, ces questions sont tombées sur notre répondeur.
Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi on a appelé la constellation en forme de casserole la Grande Ourse. Merci de me répondre, au revoir, bonne soirée.
Bonsoir Anaïs, merci pour cette question Yaël Nazé que nous vous soumettons. Vous êtes astrophysicienne à l'Université de Liège et chercheur au FNRS. Pourquoi a-t-on appelé la constellation en forme de casserole la Grande Ourse, demande Anaïs.
Eh bien, en fait, la casserole, ce n'est qu'une toute petite partie de la Grande Ourse.
Ah bon ?
Ah ben oui, le manche de la casserole, c'est la queue de l'ours. Et puis, le corps de la casserole, c'est son arrière-train. Il manque des morceaux. Ah oui, en fait, si vous allez, il faut vraiment avoir un ciel bien noir. Hein, donc vous allez en campagne, loin de tout. Eh bien là, vous allez voir qu'il y a d'autres étoiles à côté. Il n'y a pas que cette là. Il y en a d'autres qui font la tête. On a les petites papates et tout le bazar. Et alors là, ça ressemble vraiment à une ours.
D'accord, c'est pas juste les quatre et puis avec une petite queue trois. Quoi,
voilà, non, c'est cette là. En fait, ce sont les plus brillantes. Donc forcément, quand on est en ville, quand il y a plein de pollution lumineuse partout, c'est les seules qu'on voit. Mais en fait, c'est un tout petit morceau.
Et pourquoi finalement, Yaël Nazé, on a appelé ça la Grande Ourse ?
Alors là, en fait, ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que ça dépend de l'endroit où on est sur Terre. On a chacun choisi, toutes les civilisations, comme ça, ont choisi leur constellation. En fait, ils ont regardé les étoiles et puis ils se sont dit « Oh, celle-là, je la mettrais bien avec celle-là. Oh, tu vois, ça ressemble à ça. » Un peu comme quand, de temps en temps, on voit un nuage et on dit « Oh, regarde, ça ressemble à un nounours ou à un mouton ou je sais pas quoi. » Mais ils ont fait pareil avec les étoiles. Alors nous, on a hérité nos constellations des Grecs et des Mésopotamiens et donc, on a une ours. Mais on peut avoir un peu tout ce qu'on veut. Si on est en Chine, là, les 7 étoiles sont ensemble, et donc cette partie-là, c'est un char, le char de l'empereur du ciel. C'est vraiment un choix arbitraire. Ils n'avaient pas la télé, il fallait s'occuper, qu'est-ce que vous voulez, ils ont regroupé les constellations.
Yaël Nazé, vous l'avez entendu, cette mini jolie intonation belge travaille à l'université donc de Liège. Elle est chercheuse au FNRS, c'est en Belgique, le Fonds de la Recherche Scientifique. Elle a écrit chez Belin « Les astronomies du passé de Stonehenge aux pyramides Maya ». Oui, j'ai dit chercheur, j'aurais pu dire chercheuse. En général, peut-être que là je me suis trompée, en général je présente les invités de la façon dont ils souhaitent être présentés. C'est tout simple. Avalancheuse sur France Inter, à votre avis, cette chanson date de quand? Des années 70 ou de 2020? Eh ben oui, 2020, si je vous le demande, bien évidemment, c'est qu'il y a un piège. C'était un peu à la façon d'eux.
Les petits bateaux sur France Inter.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier quand vous serez grand?
Bonjour, je m'appelle Koum, j'ai 6 ans, je suis en CP. J'aimerais poser une question. Ça fait depuis combien de temps que les pompiers existent? Merci de répondre à peut-être à ma question.
C'est nous qui te remercions, Koum. Patrick Dalmas, depuis combien de temps les pompiers existent, puisque vous êtes historien et pompier?
Voilà, ben je vais me faire un plaisir de répondre à Koum, qui pose une question extrêmement intéressante et précise. Je vais lui répondre précisément également. Les pompiers existent depuis que l'humanité existe, on va dire. C'est-à-dire que dès l'instant que les sociétés humaines se sont organisées en groupes et réunies en villes et villages, le besoin s'est fait sentir effectivement d'avoir recours aux personnes valides pour se porter au devant du feu en cas d'incendie, sachant que les constructions étaient pour beaucoup jusqu'à la fin du Moyen-Âge en bois et paille, il convenait d'épargner au maximum tous les quartiers alentours en faisant la part du feu et en faisant en sorte que toutes les personnes valides puissent aller combattre l'incendie. Alors, pour compléter la réponse à notre ami Koum, je lui dirais qu'au Moyen-Âge, au temps où l'Église avait énormément de poids dans la société, eh bien, on demandait aux ordres religieux d'aller porter les sceaux, on demandait aux condamnés de sortir de prison sous surveillance pour essayer de gagner un peu de liberté, et puis on demandait également à toutes les personnes dites de mauvaise vie, ces dames qu'on appelait des ribaudes, on leur demandait aussi de gagner un petit peu plus de paradis et de considération en offrant leur énergie au feu.
C'est-à-dire on prenait tout le monde, tiens, pour une fois, là, on condamnait personne.
On prenait tout le monde à condition que chacun effectue sa tâche solidaire au service de la société. Et puis alors, pour aller véritablement maintenant au cœur de la question de Koum, les pompiers à titre professionnel, véritablement, existent depuis 1811 à Paris. C'est l'empereur Napoléon Ier qui a créé le premier régiment donc militaires de sapeurs-pompiers professionnels. Et puis à partir de là, les grandes villes ont emboîté le pas et il y a eu des sapeurs-pompiers professionnels, mais civils, non pas sous l'autorité militaire, dans la plupart des grandes villes de France. On peut dire qu'en 1850, tout était en place. Je dis bien dans les grandes villes principalement. Puisque dans les villes de moindre importance et dans nos villages, ce sont toujours des hommes volontaires qui ont formé les corps de sapeurs-pompiers jusqu'à une organisation assez récente qui date à peu près des années 1960.
Qu'est-ce que ça veut dire la part du feu? Vous avez employé ce mot, Patrick Dalmas. Faire la part du feu.
Faire la part du feu, eh bien, c'est malheureusement sacrifier une part de ce que le feu est en train de dévorer pour mieux protéger le reste. C'est-à-dire, puisque le feu est en train de manger, de dévorer un pâté de maison, eh bien, on va le laisser dévorer à satiété, hein, tout en mettant en sécurité tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'on va commencer ce pâté de maison, par exemple, hein, qu'il est en train de dévorer, on va même lui faciliter la tâche en l'abattant complètement. Hein, d'où les haches des sapeurs, par exemple, hein, d'où les explosifs utilisés parfois par des militaires dans des temps un peu plus anciens que le nôtre. La part du feu consiste à sacrifier un morceau pour que le feu fasse son travail et pendant ce temps, on peut se consacrer à la défense de tout le reste alentour.
Merci Patrick Dalmas, merci surtout aux pompiers volontaires, enfin à tous les pompiers, mais les pompiers volontaires, ils ont un autre métier. Par exemple, là, moi, je sais pas, je suis pompier volontaire, on m'appelle, ben boum, je laisse l'émission en plan et j'y vais.
Bonjour, je m'appelle Egon, j'ai 5 ans et demi, je voudrais savoir pourquoi l'homme est un peu pareil que le singe. Merci.
Evelyne Ayer, vous êtes professeure en anthropologie génétique au Muséum. Que pensez-vous de cette question des gones?
Je trouve que c'est une question marrante, quoi. Pourquoi l'homme est-il pareil que le singe? Tout simplement parce que l'homme, d'abord, c'est un singe. On appartient à la même famille, à la famille qu'on appelle des primates. Et donc, notre plus proche cousin dans cette famille des primates, c'est le chimpanzé. Et alors, quand on regarde l'ADN d'un être humain et l'ADN d'un chimpanzé, on a seulement 1% de différence entre les deux ADN. C'est pour ça qu'on lui ressemble beaucoup. On ressemble beaucoup plus qu'à une banane, avec une une banane, on n'a que 40% de notre ADN en commun, alors qu'avec le chimpanzé, on a 99% de notre ADN en commun. Donc on ressemble beaucoup plus à un chimpanzé qu'à une banane.
Je trouve que c'est déjà beaucoup 40% avec la banane.
Ah oui, c'est marrant, hein. Vous ne pensiez pas que vous aviez un peu de banane en vous comme ça.
Non, ça fait presque, ça fait une petite moitié.
Oui, ça fait une petite moitié, mais on partage aussi avec des bactéries. En fait, on partage avec tout ce qui est vivant, on partage, et plus on est éloigné dans l'arbre du vivant, moins on partage. Donc, le chimpanzé qui est le plus proche, on partage 99%. Avec les autres êtres humains, donc comme on est dans la même espèce, c'est 99,9%. Il y a 1% de différence avec le chimpanzé et 1 pour 1000 seulement entre deux êtres humains.
Comment vous avez fait pour compter ça, les scientifiques? C'est incroyable.
Eh bien, en fait, on lit l'ADN. C'est ce qu'on appelle séquencer l'ADN. C'est lire tout l'ADN. Et donc, maintenant, on sait lire tout l'ADN, par exemple, d'un chimpanzé, tout l'ADN d'un humain, tout l'ADN d'une banane. Donc, on lit tout et on compare et on compte les différences.
Mais il y a combien d'éléments dans un ADN?
Alors, dans un ADN d'être humain, il y a 3 milliards de lettres. Et c'est un alphabet qui n'est pas fait comme nous avec 26 lettres, mais avec seulement 4 lettres. A, C, T, G. Et donc, c'est 3 milliards d'A, C, T, G qui font notre ADN. Et donc, on l'aligne avec celui du chimpanzé et on compte là où il y a des différences.
Mais il faut une vie pour lire un ADN de 3 milliards.
Non, il faut un gros ordinateur.
Elle est vraiment sympa, c'est Evelyne Heyer et Modeste, professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Son dernier livre est édité chez Flammarion, L'Odyssée des Gènes. C'était Juliette Armanet à La Folie sur France Inter. Vous écoutez Les Petits Bateaux.
Bonjour, j'ai 5 ans. Je m'appelle Cléo. Pourquoi les époques du passé n'existent plus? Merci de me répondre. Au revoir.
Pourquoi les époques du passé n'existent plus? Alors ta question, elle n'est pas seulement mignonne, c'est ta voix qui est mignonne. Elle est intéressante au point que nous l'avons soumise à un docteur en philosophie, à un écrivain qui a écrit Curiosité philosophique édité au Seuil. Et vous êtes également Monsieur Phi, parce que Monsieur Phi, Thibaut Giraud, c'est le nom que vous avez sur votre chaîne YouTube consacrée à la philosophie. Alors, voix adorable et question immense, non?
Oui. C'est vertigineux comme question, et c'est une très belle question, Timéo. Finalement, si tu soutiens que les époques du passé n'existent plus, c'est que tu soutiens de façon générale que le passé n'existe plus. Et donc, le Timéo qui m'a posé cette question, il me l'a posé dans le passé, et donc ce Timéo qui m'a posé cette question, il n'existe plus. Là, maintenant, le seul Timéo qui existe aujourd'hui, ben, ça doit être le Timéo présent, qui est peut-être à l'école, hein, à l'heure où on enregistre l'émission, je ne sais pas. Et puis quand l'émission sera diffusée, ce Timéo présent, il n'existera plus, lui non plus. Hein. Le seul Timéo qui existera à ce moment-là, ce sera le Timéo futur, qui à ce moment-là ne sera plus futur, mais présent. Hein. Je ne sais pas si tu suis tout ça. Hein. On se perd vite dans ces histoires de présent, de passé et de futur. Donc ce que tu sembles sous-entendre en demandant pourquoi le passé n'existe plus, c'est que seul le présent existe. Et cette position, on appelle ça le présentisme en philosophie. Et on aime bien donner des petits noms aux thèses, et donc ça, c'est la thèse présentiste. Et quand on y pense, cette thèse présentiste, elle est vraiment vertigineuse, parce que c'est pas grand-chose, le présent, c'est minuscule. Hein, le Timéo qui écoute le début de ma phrase, là, et ben hop, ça y est, il n'existe plus. Hein, maintenant, c'est le Timéo qui écoute la fin de ma phrase qui existe. Et puis, il a déjà disparu parce que ma phrase, elle est finie, et donc voilà, c'est encore un autre Timéo qui prend le relais, hein, et ainsi de suite, à chaque nouvel instant. Mais pour combien de temps? C'est quoi l'épaisseur du présent? En fait, le présentisme peut sembler très intuitif à première vue, parce qu'effectivement, ce qui nous entoure au moment présent, ben, ça semble vraiment exister, ça semble vraiment là, tandis que tout ce qui est dans le passé ou tout ce qui est dans le futur, ben, ça semble pas vraiment là, on l'a pas sous les yeux précisément, ça a existé ou ça va exister, mais ça n'existe pas tout court. Donc oui, c'est une idée intuitive, c'est une idée frappante, mais c'est aussi une idée qui est extrêmement difficile à soutenir quand on l'examine de près. Et en fait, du point de vue physique, parce que c'est intéressant de se pencher sur la physique, parce que d'un point de vue scientifique, c'est quand même la physique qui s'occupe du temps, qui étudie le temps, et bien d'un point de vue physique, c'est très difficile de soutenir une position présentiste. Un problème notamment, c'est que la théorie de la relativité restreinte, elle nous apprend quelque chose d'assez étrange et qui est difficile à saisir, mais elle nous apprend que on peut pas définir l'idée que deux événements arrivent en même temps. De façon absolue. Si deux événements arrivent en même temps pour moi, par exemple, eh bien, on peut avoir un autre référentiel où ces deux événements ne sont plus simultanés, ils n'arrivent pas en même temps.
Par exemple, Thibaut Giraud,
oui.
Si je vous appuie sur le nez et qu'en même temps le plafond du studio vous tombe sur la tête, ça va se passer en même temps?
Ces deux événements qui effectivement, pour nous, sont simultanés et qui, pour toute personne qui nous entoure, étant donné qu'on navigue à peu près à la même vitesse dans l'univers, tout ça paraîtrait tout à fait simultané, effectivement. Mais en théorie, il y aurait d'autres référentiels dans lesquels ces deux événements ne seraient pas simultanés. Et en fait, le fait qu'on puisse pas définir une notion de simultanéité qui soit absolue dans la théorie de la relativité restreinte, ça fait qu'on peut pas définir une sorte de présent de l'univers. Alors, il semble qu'on aurait besoin de ça si on veut défendre vraiment une position présentiste. Il faut dire, bon, bah, il y a un moment de l'univers qui est le présent de l'univers et qui vaut dans l'univers partout. Et ça, on sait qu'on ne peut pas l'avoir du point de vue physique. En fait, la physique, elle va plutôt nous inviter à concevoir le temps comme une dimension qui est un peu semblable aux dimensions de l'espace. C'est-à-dire qu'on se déplace dans l'espace et dans le temps. Hein, on se déplace dans ce qu'on appelle donc l'espace-temps. Et de la même façon que lorsque je quitte mon bureau pour aller aux toilettes, mon bureau continue d'exister. Eh bien, de la même façon, quand je me suis déplacé dans le temps depuis hier, d'un point de vue physique, il n'y a pas de raison de penser que ce lieu temporel où j'étais hier n'existe plus. Voilà, hier existe, en somme, d'un point de vue physique, hier existe aussi bien que demain ou que maintenant. Il n'y a pas vraiment de sens physique pour un présent. Le maintenant, c'est juste une sorte de ici temporel, ni plus ni moins. Et donc, il n'y a pas de raison particulière de donner un statut privilégié à ce ici temporel, pas plus qu'au ici spatial. On ne pense pas que le lieu où on est ici est spécial d'un point de vue physique, mais on devrait en faire autant d'un point de vue temporel. Autrement dit, dans l'univers, tous les instants sont en quelque sorte égaux du point de vue de l'existence. Et ça, c'est très troublant parce que cette conception des choses, elle s'applique non seulement au passé, parce que donc ça a pour conséquence que les époques du passé, en fait, elles existent toujours, mais ça s'applique aussi au futur. Les événements futurs, les époques futures existent tout autant que les époques présentes et passées. Tout existe en quelque sorte de toute éternité, peu importe l'éloignement, que ce soit dans le temps ou dans l'espace.
À propos de passé, bien passé, le magazine PandaCraft de février consacre son kit de construction aux grandes inventions de la préhistoire. C'est dans le magazine des 3-7 ans. À cet âge-là, c'est comme la réponse qu'on vient d'entendre. Il faut un petit coup de pouce des parents pour piger le truc. Nous avons monté ce kit au petit bateau et nous nous sommes régalés. Nous avons fabriqué un collier non pas de nouilles mais de dents, enfilé avec une aiguille en os. Nous avons fabriqué une lance en bois et en pierre. Nous avons peint une fresque, monté une torche avec du feu. Alors bien sûr, ce n'était ni du vrai feu, ni du vrai silex, ni des fausses dents, mais du vrai travail, joli, amusant, qui éloigne des écrans. Comme son nom l'indique, le kit est en kit, tout est fourni et prédécoupé. Et grâce à un QR code, vous pouvez avoir la marche à suivre en vidéo. En plus, dans le journal, vous trouverez des infos, des histoires, des reportages, etc. Alors malheureusement, ce magazine ne se vend pas en kiosque, mais par pandacraft.com. Cela dit, c'est assez sympa de recevoir un paquet par la poste, ça fait cadeau. Podcaster, mes amis, podcaster ces petits bateaux. D'ailleurs, vous pouvez également juste réécouter, vous pouvez réécouter les petits bateaux en entier par franceinter.fr, mais vous pouvez également réécouter une seule réponse. Je sais bien que la réponse de Thibaut Giraud était assez compliquée. Donc non seulement vous pouvez aider vos enfants à la comprendre, mais vous pouvez la réécouter plusieurs fois. Tiffany Battistel, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham, Stéphane Cohn, Jean-Baptiste Audibert ont fabriqué ces petits bateaux. À suivre, Jérôme Garcin avec un masque et la plume consacré ce soir à la littérature.